Bon, juste deux mots pour parler de Vigile, donc, qui va être lu. C'est un drôle de texte dans le catalogue de la maison d'édition. Et d'ailleurs, pour être d'accord avec l'heure, c'était un livre que j'ai découvert au moment du repas. C'est-à-dire que vers midi, j'ai une amie journaliste qui m'appelle en me disant « Est-ce que tu aurais le temps de lire un texte ?» Et je lui dis « Écoute, là, je vais partir déjeuner, t'as qu'à me l'envoyer tout de suite. » Et je le lis pendant le repas. Et inconsciemment quand même, ou sournoisement, je me disais « Ça va être sans doute mauvais, comme 99% des textes que je reçois. » Mais en l'ayant lu très vite, ça me dédouane un peu, la réponse sera plus douce. Et en fait, ce jour-là, j'ai jamais fini mon bol de riz parce que j'ai commencé à lire le texte et j'ai oublié mes brochettes. Voilà, je te laisse la parole.
Merci, merci, merci. Donc, je vais vous lire le premier chapitre de Vigile, de Yam Zeytoun, et puis il y a un court extrait du deuxième chapitre. C'est un livre court, donc je n'ai pas envie de trop le dévoiler. C'est un livre dans lequel il faut entrer et faire un bout de chemin avec ce livre, moi qui m'a beaucoup touché. Et donc j'avais envie d'essayer de vous donner le goût, l'envie de le lire sans le déflorer. C'est une histoire de pulsation, une certitude physique qui mute en pensée. Ça me traverse dans la cuisine alors que tu es là, juste derrière moi. À peine un mètre nous sépare, nos corps s'activent pour préparer le repas et nos cœurs, étrangement, battent plus qu'à l'ordinaire. Ça ne va pas, on ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas de s'être disputé, pas non plus d'avoir dit qu'on allait dans le mur, qu'il fallait gagner plus d'argent, sinon on ne s'en sortirait pas. À peine dit ces mots-là, je les regrette. Tu fais tout ce que tu peux et moi aussi. Non, la pensée qui me traverse n'a rien à voir avec tout cela. Elle me fait peur autrement. C'est une alerte physique, la sensation d'être en survoltage. Oui, une histoire de pulsation. Je n'aime pas me coucher sans toi, ni m'endormir triste ou fâché. Mais je suis trop groggy pour veiller longtemps avec ce rhume qui m'épuise, le comprimé qui m'assomme. Je monte seul. Un peu avant, tu me dis que tu as mal à la poitrine. Des courbatures sans doute d'avoir porté le gros meuble hier soir. Veux-tu que j'appelle un médecin? Je demande au cas où. Il est vrai que mon père sort d'un infarctus, alors je pose la question. Mais tu ris, balayes la proposition d'un geste. Ce n'est rien. Je vais me coucher. La nuit profonde m'empêche d'émerger. J'essaye en vain de trouver l'interrupteur. Arrête! Tu fais le malin, je crois. C'est une blague, ce vrombissement de bouche, ce jeu étrange que tu fais au milieu de la nuit. Serait-ce que je ronfle et tu te moques? J'ai tant de mal à vaincre le sommeil cette nuit-là. Dans le noir, je te parle, te demande d'arrêter, je t'appelle. Ce n'est pas drôle. L'interrupteur, je ne le trouve pas. Mon cœur bat à la chamade. Je dois savoir déjà. Ton front que j'ai touché est trempé de sueur. La lumière, ton visage, tes yeux fixes, tu n'es plus là, une secousse encore, tu n'es plus là. Je t'appelle, t'appelle, Antoine, Antoine, monstrueux sentiment d'abandon, tu ne peux pas me faire ça. Mon cœur bat la chamade, mes mains tremblent, je me lève, essaye de rassembler mes pensées, juste agir, faire les bons gestes dans le bon ordre. La peur, elle est là, mais je dois agir, arriver à descendre les escaliers jusqu'au salon, attraper mon téléphone, composer le 18. Je remonte les escaliers, pose le téléphone en mode haut-parleur. Je commence à masser ta poitrine, le lit est trop mou. Un homme décroche. Je dis « Mon mari a fait un infarctus ». Je donne l'adresse. On me demande si je sais faire un massage cardiaque. Je dis « Oui ». Vous l'avez mis par terre ? Non, je réalise que non, que ça ne peut pas marcher. Je tire doucement ton corps pour le faire glisser par terre. Je crois que j'y arrive sans trop heurter ta tête. Je dis « Je ne sais plus comment on compte pour le bouche-à-bouche ». La voix, vous ne faites que le massage. Mes mains sur ta poitrine, mes mains imbriquées l'une dans l'autre pour me donner la force. À genoux, je donne mon poids dans ta poitrine et souffle pour deux. Il y a une semaine, jour pour jour, j'ai reçu dans la boîte aux lettres un petit mémo des pompiers intitulé « Les gestes qui sauvent ». Un carton avec les numéros utiles en cas d'urgence. et un petit dessin illustrant le massage cardiaque. C'est un après-midi chargé. Pourtant, à mon bureau, je croise les mains comme il faut, mime pour moi le geste qui sauve. Appris lors de ce stage de secourisme à la Croix-Rouge il y a 4 ans, une bonne résolution de jeune maman. J'y ai peu repensé, j'ai si souvent laissé traîner ce genre de papier pour le jeter plus tard. L'oxygène te quitte peu à peu, je le vois à ton front, à ton visage qui perd sa couleur. Je donne mon poids dans ta poitrine, continue de t'appeler. Reviens, mon amour. À l'autre bout du fil, la voix me dit « Vous continuez ». Je n'ai pas le droit de flancher puisque je sais quoi faire. Le temps passe, il faut qu'ils arrivent vite, les pompiers. Alors, le geste qui sauve, répétitif. Il fait passer ma peur, occupe mon énergie, tout entière dans mes mains, dans mon dos qui s'incline près de toi en rythme. Je vois les minutes s'égrener sur le téléphone et les pompiers n'arrivent pas, le découragement immense. Je le dis à cet homme à l'autre bout du fil. Quand arrivent-ils ? Pourquoi ne viennent-ils pas ? Je ne vais pas tenir. Ta vie précieuse entre mes mains, mon chéri, c'est tellement difficile. La mort est comme un diable qui susurre à l'oreille que c'est déjà trop tard, que tu m'as quitté désormais, que je ne vais pas y arriver. Je lui fais face avec mon corps qui tremble à n'en plus pouvoir, avec ces gestes que j'ai appris comme une prière à laquelle s'accrocher. Et puis soudain, au moment où la peur est à son comble, tu inspires. Une inspiration. Une seconde où tu reprends vie, une petite décharge électrique. Ton visage était violet, il reprend ses couleurs. Tu es reparti déjà, mais en moi, la colère est arrivée en flot. Je ne te lâcherai pas. Je suis une machine à oxygène. Le temps ne compte plus. Et dans cette respiration puissante qui convoque des forces inconnues, une autre transe se rappelle à mon corps. Souffler, inspirer. Tout entière plongée dans une vague qui me porterait au-dessus. L'autre lame est puissante, s'enfonce jusqu'aux entrailles et éclate au cerveau. Elle cisaille, creuse et broie, elle cherche au plus profond. Tu vois, j'ai le visage blême, celui qui ne fait pas semblant. L'enfant met toute la nuit à venir. J'ai décidé de tenir jusqu'au bout, sans péridurale. La nuit est longue, mais je veux toute ma force pour le mettre au monde. Tu me tiens la main, je sens les contractions me traverser et j'arrive, j'en suis fier à faire passer la douleur à force de souffle, à force de détente. Tu tiens ma main, je sens ton impatience. Au matin, je suis terrorisé, mettre au monde, je n'y arriverai pas, imaginer ce corps qui me passe au travers et la douleur supplémentaire, non. La sage-femme a ces mots, il est 8h41, à 9h05, il est dehors, votre enfant. 9h03. Tu tiens ton Victor dans les bras, le porte haut. Son premier souffle, c'est pour toi. On a fêté les 3 ans de Victor il y a quelques jours. Margot a 6 ans. Dans la nuit, dans mes cris, il se réveille, voit tout. Leur visage, l'émotion qui les traverse à cet instant, je ne sais plus. Est-ce que je les regarde même ? Papa a fait un infarctus. J'ai appelé les pompiers. Et moi qui n'ouvre pas mes bras pour les accueillir. Leur amour doit être bien fort pour qu'ils s'éclipsent comme cela, sans que j'aie rien d'autre à dire. Oui, bien fort leur amour pour que dans le lit, ils repartent sans un pleur, sans un cri. Mes mains sur ton cœur, en rythme. Je dois être avec toi. La voix de nouveau à l'autre bout du fil. Vous êtes toujours là ? Vous continuez ? Oui, je dis oui. Je réalise que je n'ai pas ouvert la porte pour l'arrivée des pompiers. L'homme me dit d'y aller. Non, je ne te lâcherai pas. Margot, va ouvrir la porte d'entrée. J'ai oublié. La clé est accrochée trop haut. Margot attrape un tabouret que Victor maintient. Elle tourne la clé au moment où les pompiers sautent par-dessus la grille du jardin. Ils sont là, leurs pas dans l'escalier, le bruit des bottes, des voix. Une main se tend vers moi, me détache de toi, me porte sur le côté. Elle a pris le relais. La main, leur main, les machines, l'attirail qui doit te maintenir oxygéné, le temps que je dois sortir de la chambre, c'est à eux maintenant. J'obéis, en pilotage automatique, mais avec ce soulagement étrange, stupide, de n'avoir plus toute ta vie entre mes mains, puisqu'ils sont arrivés. Je quitte la chambre. Dans celle d'à côté, Victor me demande s'ils peuvent se rendormir. Tant de douceur, de calme, de sang-froid en eux. Je n'en reviens pas. Oui, oui, vous pouvez vous rendormir. Je devrais savoir que ces minutes sont décisives, que l'on ne va pas seulement prendre le relais, on va choquer une fois, deux fois, 3 fois, combien pour toi ? Va-t-on se battre davantage parce que tu es jeune, parce que tu es papa ? Je repense à ce matin, il y a quelques années, où j'ai vu les pompiers défibriller, juste sous les volets, la petite mamie d'à côté. Elle est partie comme ça, juste après un café, elle s'est effondrée, dit son mari, ce vieux bonhomme que l'on croise tous les jours arpentant le quartier. La vie sans l'autre, quand on l'a partagée si longtemps, est-ce qu'on s'y habitue ? Dans nos jardins mitoyens, ces hirondelles la cherchent encore. Sage comme nos enfants, je te quitte, te laisse entre leurs mains. Mes jambes ont disparu dans la bataille, mais je descends les escaliers. Mes mains tremblent toujours, rien n'y fait. Dans la cuisine, je compose le numéro de tes parents. Pourvoyeuse de malheur que je suis, j'ai la voix calme pour épargner. J'essaye d'être le plus clair, le plus simple possible. Mais c'est si grave que ça. Ton père a cette phrase-là qui me brise, me force à dire « Oui, c'est grave, il faut venir ». Nous arrivons à l'hôpital. Alors qu'on cherche à se garer, j'aperçois mon père, Walid, qui descend d'un taxi et se dirige vers le bâtiment principal, trop loin pour que je puisse lui faire signe. Mon cœur se serre à le voir marcher le long de ces bâtiments gris. Il est venu dès qu'il a su. Je reconnais là son empressement dès que la santé est en jeu. Cela me touche et m'inquiète à la fois, car je redoute ses conseils, ses interventions auprès des internes. Le parking est complet. Laure me propose de descendre, elle me rejoindra. J'ai du mal à lire les panneaux, à me diriger dans l'hôpital. Mon cœur bat trop fort. Je dois m'y prendre à plusieurs reprises pour choisir le bon couloir, le bon ascenseur. Au service cardiologie, on me renvoie vers le service réanimation. Tu viens d'être opéré et c'est là qu'on t'emmène. Sans bien saisir ce que cela implique, je suis les panneaux, monte les dernières marches et soudain, au détour d'un couloir, un brancard, ta silhouette recouverte d'un drap, ton visage. Dans un sursaut, je t'appelle « Antoine ?» J'y crois. Tes yeux vont s'ouvrir, ta main se tendre vers moi dans un sourire. Mais tes yeux restent clos, ton corps silencieux, presque sans un regard. Le brancardier te mène à la chambre où l'on va t'installer. Le galop dans mon cœur s'écrase absolument. Je me sens si bête. Ce serait trop facile de pouvoir te retrouver comme cela, fraîchement sorti d'affaire. J'aurais dû savoir, et les pompiers l'ont annoncé, tu es curarisé, plongé dans un coma artificiel. Tu dors de ce sommeil qui ressemble à la mort, celui-là même que Juliette s'infligea pour échapper au mariage forcé et retrouver Roméo avant qu'il ne se verse le poison, le croyant perdu à jamais. Dans le petit bureau où l'on m'a conduite, il n'y a ni fiole ni poignard pour assouvir mon désespoir. La fenêtre n'offre qu'un spectacle morose, sans orage ni trombe d'eau, pas même l'éclat d'un soleil indécent. Mais à l'image de notre drame, contre lequel personne ne se rebelle, un gris banal. La chef du service de réanimation s'assoit en face de moi. C'est une femme d'à peu près mon âge, son visage est grave, son regard profond. Je sais tout de suite qu'elle ne m'épargnera pas la vérité. Elle ne me quitte pas des yeux, à me dire le peu d'espoir qu'il y a. 30 minutes d'arrêt cardiaque, même avec un massage, c'est énorme. Si le cœur est reparti, le cerveau a forcément souffert, tes fonctions vitales. Te réveilleras-tu de ce coma où l'on t'a plongé ? Et si tu te réveilles, qui seras-tu ? Un légume ? Elle a les mots de la médecine. Ceux que j'ai oubliés maintenant, mais que je répéterai ensuite à tous ceux qui doivent savoir. Des mots qui font qu'on ne s'écroule pas, des mots techniques pour communiquer, pour expliquer, c'est toujours ça de pris sur la douleur. Et ça me parvient clairement, je le savais déjà. Les secondes qui se sont égrenées sur mon téléphone le temps de la bataille, il a fallu les ignorer, ne pas se poser la question de l'espoir. Maintenant, le pronostic. Mon amour, je le savais, tu es entre la mort et la vie, mais ton cœur bat. Tu es plus vivant que tout à l'heure. Alors je veux me raccrocher à la pensée de te retrouver. Dans les yeux de cette femme, l'effort de vérité est empli d'empathie. Et ce respect-là me donne des forces, ces mots que je lui dis. Je sais que je serai capable de m'en occuper, même s'il est handicapé, même s'il n'est plus le même. J'en suis capable, pourvu qu'il sache qui je suis, qui nous sommes. C'est étrange de dire cela, mais c'est ma façon à moi de lui demander de se battre pour ta vie, de ne pas te lâcher. Et je lui plante cela dans le cerveau comme elle a planté le peu d'espoir dans le mien. Ce n'est pas un combat, c'est une estimation des forces. Un interne prend le relais, un homme très grand qui fuit mon regard. Ils ont déjà contacté notre médecin généraliste, mais il est important que je les renseigne davantage sur tes antécédents familiaux, sur ton hygiène de vie. On me demande s'il y a des cas d'infarctus dans ta famille, si tu fais du cholestérol, si tu prends des médicaments, si tu as eu des problèmes de santé, si tu as fait un effort violent juste avant. je comprends à demi-mot qu'il veut savoir si nous avons fait l'amour avant l'accident. Cette question-là, que d'autres me reposeront ensuite, amis ou connaissances, m'interpelle dans ce contexte clinique. Je ne peux m'empêcher d'y voir un genre de projection, un fantasme de mon interlocuteur. Et puis, je questionne à mon tour. Pourquoi ? Pourquoi toi, qui cours régulièrement, qui fais attention à ce que tu manges, qui fumes si peu ? L'interne me répond froidement que fumer peu, c'est pareil que beaucoup. Je laisse défiler les dernières 24 heures. J'évoque ta douleur à la poitrine la veille au soir, mais infime, presque rien, tu disais. L'interne me dit que cela arrive. Le caillot devait déjà être dans l'artère, mais le cœur compensé, jusqu'à lâcher. Je lui demande à nouveau pourquoi. Il m'explique l'infarctus, la blessure dans l'artère, le sang qui afflue et forme un caillot. Mais ce n'est pas cette explication-là que j'attends. Pourquoi cette blessure ? Pourquoi cette façon que tu as eue de ne pas sentir alors que tu sens si bien ? Ceux qui te connaissent savent, on ne peut qu'être stupéfait, tu sembles si solide. Le temps n'a pas de prise sur toi, tu fais si jeune et les 16 ans qui nous séparent l'un de l'autre ne se devinent pas. Tu portes tes deux enfants dans les bras sans ciller, tu vas aider les copains à déménager, à bricoler, tu n'es jamais malade. Et c'est arrivé, comme cela, d'un coup, le cœur. Je me sens tellement coupable de n'avoir pas insisté, appelé les pompiers la veille, d'avoir imaginé avec toi ces projets de théâtre que nous portons à bout de bras dans le quartier et dans la ville, d'avoir dit oui pour la maison, de t'avoir laissé faire tous ces travaux, de t'avoir fait deux enfants et des nuits d'insomnie. Je repense à ces nuits entrecoupées pour rendormir Margot et à la naissance de Victor, une fois l'allaitement passé, toutes ces nuits sans sommeil pour toi, parce que tu te levais pour deux. Oui, je me sens soudain si coupable de ne t'avoir pas protégé, pas assez aimé, pas assez regardé. Si j'avais su, est-ce que j'aurais pu ? Est-ce que l'on s'aime en s'épargnant ? Cette énergie-là, à vouloir toujours imaginer avec toi de nouveaux projets, un nouvel horizon, n'est-ce pas, depuis le début, la façon que j'ai de t'aimer ? Merci. Voilà, et je vous invite à découvrir ce très beau livre et cette très belle écriture. Donc c'est Vigile, hein, de Yam Zeitoun, aux éditions Le Tripode.
Juste pour préciser, c'est un premier texte. Et moi, je suis un éditeur de littérature, ce n'est pas un témoignage, en fait. C'est quelque chose qu'elle a vécu, mais elle ne l'a pas écrit pour elle, ou elle l'a écrit comme une lettre d'amour à cet homme. Voilà. Et dans cette distance-là, il y a vraiment un travail littéraire incroyable.
Merci à vous. Merci.